une certitude, la vie. Et la vie continue, avec les rythmes particuliers et immuables des prisons. Toilettes, corvées, repas, promenades dans l'enceinte de la prison, etc. Lorsqu'un événement d'importance se produit le 14 août, Gisèle et Edmond sont graciés par le général von Stuppnagel, chef militaire des territoires occupés en France. Leur peine de mort est commuée en détention à vie, ce qui se traduit par la déportation en Allemagne. La petite flamme d'espoir brille d'un éclat plus vif. Nous sommes toutes les trois heureuses de cette bonne nouvelle. Nous nous mettons sur le champ à faire des projets d'avenir. Après la victoire, car nous ne doutons pas un instant que l'Allemagne sera vaincue, nous nous retrouverons pour évoquer ensemble les épreuves et les bons moments de cette période mouvementée. Alors que nous nous réjouissons de la grâce dont bénéficient Edmond et Gisèle, ce matin du 14 août, nos compagnons de combat de la clandestinité, condamnés à mort, auront vu leur dernière aube se lever. Nous n'en avons rien su sur le moment. Personnellement, c'est beaucoup plus tard, après la guerre, que j'ai appris que leur exécution avait eu lieu le 14 août, le jour même où Edmond et Gisèle ont appris qu'elles étaient graciées. Contrairement à leur affirmation, les Allemands n'ont pas respecté le délai de 2 mois promis pour la confirmation du jugement par le général Stuppnagel. Ce délai n'a été que 1 mois. Les jours passent, notre amitié se conforte, et, à vivre ainsi ensemble, nous sommes devenus plus que des sœurs. Nous nous faisons mutuellement la promesse que la première fille que chacune aura portera le nom de résistante d'une des deux autres. Promesse tenue, la fille de Gisèle s'appelle Françoise, ma fille aînée s'appelle Annick. Pour rien au monde, nous n'aurions manqué à notre serment. Séparation. Voici un peu plus de 2 mois que nous sommes ensemble. Nous savons que cette situation, dont nous nous accommodons du mieux que nous pouvons, ne saurait durer. Edmond et Gisèle ont appris qu'elle serait envoyée en Allemagne. Je pense qu'il pourrait en être de même pour moi. Dans l'ignorance de ce qui nous attend, nous pensons que nous avons vécu le plus dur dans les prisons françaises. Fini les interrogatoires, le secret, le procès. Il nous reste à purger notre peine. Nous ignorions à cette époque quelles étaient exactement les conditions de vie, je devrais dire de survie, dans les camps de concentration allemands, et combien les chances d'en revenir étaient faibles. Si nous en avions été informés, nous aurions certainement tempéré notre espoir. À juste titre, puisque Edmond ne survivra pas. Épuisé par les mauvais traitements, son rendez-vous avec la mort eut lieu aux portes mêmes du pays pour lequel elle avait, dès son engagement dans la lutte, fait le sacrifice de sa vie. Fin septembre 1943, en fin d'après-midi, la surveillante vient me prévenir que j'allais être transférée à Troyes. Elle me signifie de me préparer sans tarder. Je suis seule à partir. Nous allons donc être séparés. Cette idée m'est insupportable. Où allez-vous aller? En Allemagne? En Silésie peut-être? Il y fera froid. Je leur laisse quelques vêtements. En France, je pourrai toujours me débrouiller. La porte s'ouvre. On vient me chercher. Nous tombons dans les bras l'une de l'autre. Nous nous embrassons. Nous nous faisons des promesses que nous avons peine à formuler, tant est forte l'émotion qui nous étreint. La surveillante attend. Nous nous séparons. Adieu. Ou plutôt non. Ce n'est qu'un au revoir. La surveillante me conduit dans une autre cellule déjà occupée par plusieurs femmes. D'autres arrivent. Nous sommes une bonne douzaine dans cette petite pièce. Nous allons y passer la nuit. Des paillasses en nombre insuffisant sont posées à même le sol. Cela ne va pas être facile. Chacune s'installe comme elle peut sur un bout de paillasse. Il ne faut pas espérer s'allonger. J'essaye de me trouver une petite place pour m'asseoir. Les conversations vont bon train. Et c'est dans ce bruit de volière que je tente de dormir. De temps à autre, la porte s'ouvre. et la surveillante nous ordonne de nous taire. Elle renforce son injonction par la menace du mitard. Je ne suis vraiment pas à l'aise dans cette ambiance. Mes nouvelles compagnes ne sont pas des résistantes. Elles ont été arrêtées pour des délits de droit commun, ayant porté préjudice à l'armée allemande. Quoi qu'il en soit, je me résigne à passer une nuit blanche. J'en ai passé d'autres. Chapitre 7. Départ de Fresnes. Tôt le matin, la volubilité de mes compagnes de cellule a heureusement diminué. La fatigue a eu raison de bon nombre d'entre elles. Nous sommes une douzaine dans cet espace réduit, confinés dans des conditions d'hygiène déplorables. Enfin, des pas dans le couloir. Toujours le bruit des clés et la porte s'ouvre. La surveillante nous ordonne de sortir de la pièce. C'est le départ. Après qu'on nous eut distribué un quart de café et un morceau de pain, nous sommes amenés dans la cour de la prison. Un bus est là. Nous montons. Des soldats armés devant, des soldats armés derrière, et nous entre les deux. Le bus prend la direction de Paris pour gagner la gare de l'Est. Pour des raisons bien compréhensibles, cette gare de l'Est à Paris provoque en moi un certain malaise. C'est vrai, nous allons à trois. Mais avec eux, on ne sait jamais. Les employés de la gare ont bien compris que nous sommes des prisonnières. Avec notre escorte, il eût été difficile de l'ignorer. Ils sont sympas et font leur possible pour nous aider à nous installer. Certains même acceptent des petits messages que nous leur passons en douce. 3. Les Hauts-Clos. Après un voyage sans histoire, nous arrivons à Troyes. Il n'y a pas eu tromperie sur la destination. Tant mieux. Depuis la gare, nous nous acheminons vers le camp des Hauts-Clos. Il s'agit d'un hôpital dont la construction a probablement été interrompue en raison des événements. Les briques rouges sont restées apparentes dans l'attente du revêtement. Pour le moment, sa vocation se borne à servir de camp. Prison, barbelé, mirador, limite notre horizon et nos rêves de liberté. C'est bien un camp. Les surveillantes françaises nous prennent en charge. On nous enferme encore une fois ensemble dans une pièce. Cela devient une habitude. Habitude à laquelle j'ai du mal à me faire. Mais cette fois, la pièce est plus grande et plus claire. Ça me rassure un peu. Peu après, on nous apporte une gamelle de soupe. Force m'est de constater que la médiocrité en matière de cuisine est une constante strictement respectée dans les prisons, qu'elle soit à l'ouest, au centre ou à l'est de ce qui reste de l'hexagone. Cette soupe est médiocre, mais j'apprécie quand même. J'ai faim. Une surveillante, ayant en main une liste, nous appelle une par une. Je suis appelée la dernière, sans doute parce que je suis la seule réclusionnaire. Je suis introduite dans une pièce au mur de couleur claire dans laquelle se tiennent une surveillante et apparemment une infirmière. Celle-ci, une détenue, trouve que je n'ai pas bonne mine. Il est vrai que les mois passés en cellule ainsi que les affres du procès m'ont beaucoup affaibli et les rations de Fresnes étaient plutôt frugales. Il fut un temps à Fresnes où je ne pouvais plus rien avaler. Il fallait l'assistance de mes deux amis pour que je prenne un peu de nourriture. L'infirmière décrète que j'irai à l'infirmerie. On me retire presque tous mes vêtements pour me vêtir du costume des condamnés. Essayage rapide et me voilà dans mon nouveau costume. Large jupe en tissu de bure marron et veste de même couleur. C'est désagréablement rugueux au toucher et pas très saillant. Mais au diable la coquetterie.